Toujours à l'écoute, ma foi, de Brel, avec plaisir, Michel. Après Brassens,
c'est un de vos chanteurs préférés, Redouane.
Oui. Et puis c'est vrai que cette chanson, au lieu d'être dans la tristesse, c'est dans une sorte d'euphorie, d'exaltation. Et l'exaltation nous fait perdre l'essence des choses.
Absolument. Mais en plus, c'est une exaltation peut-être, mais elle est suicidaire. Hein. Il dit « Je descends en enfer ». Vous voyez, donc il y a une grande lucidité hein, à affronter cette situation. Il se rend compte.
Il est attiré comme par un aimant, voilà. C'est-à-dire impossible d'échapper, et en plus, il n'a pas envie d'y échapper.
Absolument. Il y a une sorte d'acquiescement à sa propre déchéance, à sa propre dégradation. Hein. Et finalement, l'euphorie n'est que provisoire d'abord, hein, et le chanteur ne se fait aucune illusion sur ce qui va se produire. Alors, j'ai dit que le corps nous tirait dans un sens et le cœur dans l'autre, mais même dans le cas du cœur simplement, du sentiment, hein, l'élan, le sentiment premier ne semble pas, du moins dans le cas d'Eros. Alors, nous ne parlons que d'Eros, je dis bien, nous parlerons d'Agapé, l'amour de Don, bien plus tard. Hein. Dans le cas d'Eros, le désir ou l'attrait spontané qui nous pousse vers quelqu'un n'obéit pas à une considération rationnelle, pas du tout. Hein. Voyez ce que dit Molière dans ses Femmes savantes, il insiste sur l'impondérable, le fameux « je ne sais quoi » qui nous pousse vers quelqu'un. Hein. Cette amoureuse ardeur qui dans les cœurs s'excite n'est point, comme on le pense, un effet du mérite. Le caprice y prend part et quand quelqu'un nous plaît, souvent on a de peine à dire pourquoi c'est. Acte 5, scène 1 des Femmes savantes, vous voyez. Hein. Dans ce « je ne sais quoi » a inspiré à Jean Kelevitch un ouvrage au beau titre, hein, le « je ne sais quoi » et le « presque rien ». C'est, en plus d'être une modalité de l'expérience affective, c'est aussi une catégorie esthétique et morale, et même spirituel et mystique. Le titre du livre est emprunté à Saint Jean de la Croix. Alors en espagnol, je parle sous votre contrôle, Redouane, c'est le « yo no sé qué », hein.
Le « yo no sé qué ».
Le « yo no sé qué », voilà, le « je ne sais quoi ». Hein. Et on ne finira jamais de réfléchir à ce « je ne sais quoi », bien que la raison résonante se désespère devant le « je ne sais quoi hein. ». Alors ce « je ne sais quoi », on retrouve notre idée du coup de foudre, se manifeste très souvent lors de la première rencontre. Et il faut faire très attention à la première rencontre. J'ai cité la phrase de Shakespeare dans « As You Like It »« Quiconque doit aimer aime à première vue ». Alors bien sûr, la sagesse populaire, vous savez, j'aime bien renverser les proverbes, Redouane, vous savez, c'est ma manie. Hein. La sagesse populaire nous dit qu'il ne faut pas se fier à la première impression. Eh bien, elle a tort, cette sagesse populaire, en particulier en ce qui concerne Eros. En effet, il faut se fier à la première impression qui est la bonne. Tout se joue au premier regard. Cette première impression, finalement, il faut y faire attention. Comme pour l'écrivain, le premier jet est souvent le meilleur. Et pour le photographe aussi, le premier cadrage est le meilleur. On le voit quand on regarde la planche contact, on s'aperçoit que tout ce qui vient après, le premier cadrage, est moins bon. Hein. Alors on ne sait pas pourquoi, mais cela est ainsi. Alors bien sûr, c'est d'une extrême injustice, parce que certains êtres, Redouane, peuvent ne pas nous attirer de prime abord et mériter cependant d'être mieux connus. Si l'on s'attache à la beauté, à l'archétype de la beauté, c'est ce que fait naturellement Eros, c'est oublier que certains êtres peuvent être physiquement laids et avoir une très belle âme. Par exemple, dans la réalité, on dit que Socrate était laid, il avait le nez aplati, le nez Camus, je crois, bon, mais il avait une très belle âme. Hein. Et dans la fiction, alors, voyez Quasimodo, dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, il est difforme, il est bossu, il est laid, mais c'est lui qui a une belle âme. Hein. Capienne Phébus, lui, tout en étant beau à l'extérieur, n'est pas beau à l'intérieur, vous voyez. Alors, on imagine le manque de proportion et de rationalité. En latin, ratio, la raison, et proportio, la proportion, la même racine, hein, qui se produit ici et qui engendre un conflit. Pas plus celui qui aime que celui qui n'est pas aimé ne savent pourquoi. Alors pourquoi tombe-t-on amoureux hein? Il faudrait certes y réfléchir davantage, mais peu font cet effort-là. Par exemple, on peut aimer tel ou tel défaut chez quelqu'un et ne pas aimer une qualité unanimement reconnue chez tel autre. Hein? Comme les moralistes l'ont souligné, il y a des êtres à qui leurs défauts conviennent bien, et il y en a d'autres qui sont disgraciés par leurs propres qualités, vous voyez. Un exemple, dans une lettre que l'on reçoit, par exemple, Redouane, ce peuvent être les fautes d'orthographe même qui nous font aimer à l'avance l'auteur de la lettre, par l'émotion qu'elle procure, si vous voulez. C'est bizarre, mais c'est comme ça, hein. Alors, elles induisent dans notre esprit, ces fautes d'orthographe, une présomption de jeunesse, de juvénilité, ce qui peut nous attirer, vous voyez, hein. Et ce n'est pas, en plus, parce qu'on est être apprécié de tous les autres, qu'il nous attirera. Parfois, plus on plaît généralement, moins on plaît profondément. Et qu'est-ce qu'il en est de la beauté elle-même, hein? Alors, vous savez que pour la souligner sur un visage ou sur un corps, on peut volontairement la salir, entre guillemets, par un artifice. Par exemple, la mouche autrefois que l'on mettait sur le visage des dames, le tatouage qui est très en vogue aujourd'hui, etc. Vous voyez que la perfection s'embellit du contraste même qu'il a détruit, entre guillemets. Il n'y a donc jamais de règle générale, les conditions de l'attrait sont très mystérieuses, vous voyez. Alors la plupart du temps, on en reste au fait accompli. On ne peut aimer ou être aimé comme on veut. Qu'il soit présent ou qu'il soit absent, Eros se constate et ne se justifie pas. Alors on peut espérer, pourquoi pas, aller un jour sur la Lune, avec tous les progrès de la technique moderne, mais on ne peut obtenir un atome d'amour de quelqu'un qui ne nous aime pas, vous voyez. On peut acheter le corps de quelqu'un, bien sûr, mais on ne peut pas lui acheter son cœur. Et heureusement peut-être, hein. Comme le dit dans le film de Marcel Carné « Les enfants du paradis » sorti en 1945, le personnage d'Arletty, qui joue le rôle de Garance, a son riche protecteur qui voudrait être aimé comme un pauvre. Arletty lui dit « Il faut bien leur laisser quelque chose aux pauvres, vous voyez hein ?» Donc là, nous sommes face à face avec notre impuissance. Hein. On ne peut pas se faire aimer de quelqu'un qui ne nous aime pas. Hein. C'est impossible, toujours dans le cas d'Eros, hein, bien sûr. Hein. Alors finalement, cette ambivalence très fréquente de l'amour, de désir, l'amour de désir, l'amour d'Eros, nous en montre l'extrême complexité. En principe, un seul mot dans le vocabulaire devrait ne renvoyer qu'à un seul état. Or, ce n'est pas le cas pour Eros, puisque l'amour peut très bien s'associer à la haine, vous voyez. Hermione, dans Andromaque de Racine, dit « Ah, ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais ?» Vous voyez, acte 5, scène 1. Et donc, cette parole nous installe dans un conflit constant et nous éloigne de l'unité intérieure à quoi normalement nous pourrions aspirer, vous voyez. Quand on est dans un tel état d'incertitude, on passe très facilement de l'amour à la haine, et inversement. On veut tout le bien, ou s'il ne se peut, tout le mal de ce qu'on aime. C'est une maxime de La Rochefoucauld qui se vérifie souvent. Et Dostoïevski a bien montré qu'entre la haine et l'amour, il n'y a souvent que l'épaisseur d'un cheveu, vous voyez. Alors Eros fait donc un être enfiévré et instable, qui manque, évidemment, d'unité. Vous savez, quand Hippolyte, dans Phèdre de Racine, dit à Phèdre « Je ne vous aime pas », eh bien Phèdre dit « Quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrai pas », vous voyez. Ça veut dire qu'elle sent bien que la haine est plus proche de l'amour que l'indifférence, vous voyez. Ces mélanges d'amour et de haine existent très très souvent. Hein. C'est un intérêt que l'on porte à quelqu'un, la haine. Alors, on peut l'éprouver à cause de la jalousie, par exemple, puisque Eros est un amour captatif, il veut posséder, annexer, vampiriser, eh bien, la jalousie est là, hein, et elle peut se tourner en haine. C'est un amour négatif, la haine. C'est l'envers de l'amour.
C'est mortifère, hein, on pourrait dire, c'est mortifère. La haine est quelque chose de mortifère oui. Par rapport à l'amour qui engendre de la vie, qui
prenez le cas du jaloux. Hein. Le jaloux a mal, et il fait mal. Le jaloux, c'est un martyr qui martyrise, vous voyez. C'est quelqu'un qui est au martyr lui-même, il souffre, et il martyrise l'autre, forcément, hein, parce qu'il y a un lien entre la souffrance et l'agressivité et la violence, vous voyez. Donc, c'est vrai. Mais parfois, la haine est un lien, hein, par une espèce de tragique paradoxe, mais entre les êtres, elle constitue un lien. Par exemple, on connaît tous, vous en connaissez peut-être, Redouane, comme moi, ces vieux couples qui se disputent tous les jours, hein, et qui tirent de ces disputes, de ces dissensions, une raison de rester encore ensemble, vous voyez, hein. Je pense au film Le Chat de Pierre Granier de Fer, c'est un film qui est sorti sur les écrans en 1971 d'après un roman de Simenon, et Simenon est un grand connaisseur du cœur humain, je le vante toujours auprès de mes interlocuteurs, il faut lire Simenon, hein. Eh bien, il connaît très bien les abîmes du cœur humain. Dans ce film, le personnage joué par Jean Gabin ne communique avec celui joué par Simone Signoret qu'au moyen de petits papiers, vous voyez, parce que Simone a tué un chat auquel Jean Gabin, auquel le héros était attaché, vous voyez. Donc il ne communique avec des petits papiers. C'est une haine mutique, c'est-à-dire silencieuse, qui s'accompagne dans le film de souvenirs d'un passé de beauté. Il y a des flashbacks, hein, lorsque le couple s'aimait, hein. Mais le temps a fait son œuvre, et l'incompréhension et l'hostilité se sont déclarées. Et alors, le bizarre, l'étrange, vous voyez, Redouane, c'est que, une fois que sa compagne est morte, le veuf, l'homme survivant, ne s'en remettra jamais, vous voyez. Donc, ce qui liait ces êtres, c'était la haine, véritablement. C'est assez impressionnant. Et dans L'étranger de Camus figure un personnage secondaire, qui s'appelle le vieux Salamano, qui insulte tous les jours son chien, hein, charogne, etc., des insultes. Bon, mais une fois qu'il a perdu son chien, eh bien, il demeure inconsolable. C'est terrible, là, nous sommes dans l'enfer, justement, de l'ambivalence, de l'amour-haine, ce qui montre que le cœur humain est dédaléen et labyrinthique. Alors, les exemples que je viens de citer ne poussent évidemment pas à l'optimisme, Redouane, non ?
Je ne sais pas, parce que je me demande jusqu'à quel point, si derrière les mots, il n'y a pas une autre réalité. En fait, je dis noir, mais je ne pense pas noir. Mais le fait de dire noir, c'est transgresser l'équilibre, c'est transgresser l'ordre moral, c'est... voilà, je me demande quelque part, et ça me fait penser à à un extrait que j'ai vu dans un film qui passe actuellement sur Canal+, qui s'appelle Versailles, qui retrace la cour du roi Soleil, et il y a deux dames qui sont là, deux courtisanes, et l'une du courtisane qui dit à l'autre, il faut aimer par intérêt et baiser par plaisir. Donc oui, je me dis... où est l'éros, oui. Où est le cœur, c'est aimé par intérêt.
Oui, mais là, il y a un clivage, il y a une séparation d'un être en deux moitiés, au moins.
Oui, oui.
Et c'est
au
jamais
moins,
bon.
Au moins,
oui. Au moins, en deux moitiés. C'est jamais bon d'être partagé, d'être divisé. Le diable nous embrouille, en fait, ce qu'il y a en nous, des forces ténébreuses, en quelque sorte, qui nous divisent. Hein. Si nous pouvions être unifiés, si le cœur, l'âme, le désir, le corps allaient dans le même sens, ça serait merveilleux, hein. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas.
Donc... c'est toute, disons... c'est la définition des relations au sein de la cour qui repose sur le paraître et l'hypocrisie que sur l'amour sincère. Et peut-être que c'est plus facile d'échapper par de la haine. C'est la chanson de Brel. Hein. Brel aurait pu échapper à son enfer si, au lieu de dire des mots d'amour, se laissait aller à son élan amoureux, cracher sa haine.
Ah oui, il est bon parfois quand on a de la violence de l'extérioriser.
Est-ce que c'est pas une manière de se protéger, c'est-à-dire d'échapper au sentiment que l'autre pourrait avoir sur nous?
Oui, à l'emprise qu'il pourrait avoir.
Oui.
À l'emprise qu'il pourrait avoir. Oui, mais hélas, comme vous savez, le chien vient lécher la main qui le frappe. Eh bien, Manon se moque de Desgrieux dans le roman de l'abbé Prévost, dans Manon Lescaut. Eh bien, Desgrieux s'aplatit. On pardonne tant que l'on aime. Mais c'est terrible, cette situation. Hein. C'est dégradant, c'est humiliant.
Ou qui aime bien, châtie bien.
Comment oui, alors là, attendez, on fait toujours un contresens sur cette formule. Qui bene amat bene castigat, c'est qui aime comme il faut aimer, châtie comme il faut châtiller. C'est pas qui aime beaucoup, châtie beaucoup, parce que sinon
non,
on aurait en latin, qui multum amat, multum castigat. Donc là, c'est l'exigence justement que l'on peut avoir vis-à-vis de celui que l'on aime, hein, qui peut nous pousser à lui faire des réprimandes pour qu'il s'épanouisse davantage, qu'il aille plus loin dans la logique de son caractère, vous voyez. Mais sinon, on a le masochisme dans la phrase que vous disiez, si on l'interprète comme cela, comme dans la chanson de Boris Vian, « Fais-moi mal », vous savez, « Fais-moi mal, tape-moi dessus », etc. Je parlais de l'amour vache, c'est ça, hein. Donc, c'est terrifiant. Je pense que ces êtres écartelés, clivés, ce sont des vies par défaut, par manque de quelque chose, et il ne viendrait à l'idée de personne de les envier. Alors vous voyez, je pense que Redouane, vous seriez d'accord avec moi pour dire que la pierre de touche, le critérium, la preuve, hein, pour savoir si un sentiment que nous éprouvons pour quelqu'un nous est profitable ou pas, peut-être la seule question à se poser ici, c'est est-ce que dans ce sentiment nous sommes unifiés ou pas, hein. Et alors dans le cas d'Eros, cela ne me semble pas souvent le cas, hein. Voilà, demandons-nous si nous aimons quelqu'un, est-ce que nous sommes partagés, ou bien non, ou bien est-ce que toutes les capacités, les facultés de notre être, toutes les composantes de notre essence vont dans le même sens, vous voyez, hein. Ce serait une bonne façon de répondre si je tenais un courrier du cœur, vous voyez, Redouane, je dirais ça, hein. Êtes-vous unifié ou pas? Alors j'ai choisi comme dernière chanson une chanson de Ferré d'après un poème de Verlaine, « Au triste était mon âme à cause d'une femme ». Et donc là, on y voit justement l'aliénation d'un homme. Hein. L'aliénation, c'est le fait d'être rendu étranger, aliénus, à soi-même, hein, par un amour, justement, qui à la fois l'attire et puis qui lui fait peur.
Oh, triste était mon âme à cause d'une femme. Je ne me suis pas consolé, bien que mon cœur s'en soit allé,
Voilà, on arrive, Michel, au dernier volet, donc avec Ferré. C'était triste, là, hein, on est vraiment...
Oui, triste était mon âme à cause d'une femme. Alors, il parle du triste exil, hein, bien qu'exilé, etc. Alors j'ai pensé à la gnose, vous savez, vous souvenez, Redouane, notre dernière saison radiophonique, nous avons fait une série d'émissions avec l'évangile selon Thomas. Eh bien, cet évangile nous dit que l'essentiel, c'est d'être unifié. Lorsque vous faites le 2-1, alors vous entrerez dans le royaume, hein. Donc, ne pas être divisé, duo en latin, facile, difficile, hein. C'est le 2 est une catastrophe, si vous voulez, par rapport au 1, hein. Donc, il faudrait retrouver cet état d'unité que la gnose, justement, n'a cessé de défendre et de proposer comme but à l'homme, hein. Et effectivement, dans ces états mélangés, où nous passons par des alternances d'amour, de haine, de jalousie, de solitude, etc., il faudrait dépasser tout cela et arriver justement à cette unité. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, et tout le reste vient du malin. Alors ça, c'est dans l'évangile canonique de Matthieu, je l'ai cité, hein. Mais donc ça recoupe exactement ce que dit la gnose, hein. Quant à l'exil, nous sommes allogènes, c'est-à-dire nous sommes d'ailleurs, hein. Allogène, c'est pas le lampadaire, hein. Bon, allogenes, nous sommes d'ailleurs, nous venons d'ailleurs, d'un lieu où alors tout était unifié, hein. Comme vous êtes loin, paradis, parfumé, où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé, vous voyez, Baudelaire, Maesta et Terrabunda, vous voyez, donc tout ce que l'on aime est digne d'être aimé, donc mérite d'être aimé. Là, c'est le contraire de l'ambivalence que je viens de décrire, hein. Donc, sentir qu'un sentiment porte en lui-même son auto-justification, où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé. Racine nous montre exactement le contraire. On aime quelqu'un qui n'en est pas digne, hein, ou qui n'est pas digne de nous, etc. Donc, je plaide toujours pour cette fameuse gnose. Je me définis souvent comme un agnostique gnostique, si vous voulez.
Non, ça sera l'occasion d'écrire un livre là-dessus, hein, un agnostique gnostique.
Peut-être, oui.
Merci Michel, on arrive à la fin de notre émission. Comme toujours, dans l'échange, on ne voit plus le temps passer. Je rappelle Méandre de l'amour, Eros et Agapé, livre paru aux éditions Dervy par Michel Théron. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Que les méandres de la COP 21 ne vous éloignent point de l'amour pour la Terre sur cette planète qui est unique à mes yeux. Au revoir.
Au revoir à tous.